5h49.
Chapitre 96 Le fourneau.
Outre ses embarcations suspendues à leur potence, un navire baleinier américain se reconnaît extérieurement à son fourneau. Il présente la curieuse anomalie de combiner dans son architecture complète la plus solide maçonnerie aux chaînes et aux chanvres. C'est un peu comme si l'on avait transplanté sur son pont un four à briques qui se dressait auparavant en pleine campagne. Le fourneau est installé entre le mât de misaine et le grand mât, la partie la plus spacieuse du pont. En dessous, les poutres, qui sont particulièrement fortes, soutiennent le poids d'une construction presque entièrement massive de briques et de ciment de quelques 10 pieds sur 8 de large et 5 de haut. Les fondations ne s'enfoncent pas dans le pont, mais la maçonnerie y est solidement fixée par de lourdes équerres de fer qui l'enserrent de toutes parts et la maintiennent assujettie aux poutres. Elle est revêtue de bois sur les flancs et recouverte par-dessus d'un grand panneau d'écoutille, incliné et bien assuré. Lorsqu'on ôte ce panneau, on découvre les grandes chaudières, au nombre de 2, chacune d'une capacité de plusieurs barils. Quand on ne s'en sert pas, on les garde dans un état de parfaite propreté. On les polit parfois avec de la pierre, de savon et du sable, jusqu'à ce qu'elles aient l'éclat de bols de punch en argent. Il arrive que, durant les quarts de nuit, de vieux maturins rebelles aux usages se glissent à l'intérieur pour y faire un petit somme roulé en boule. Et bien des entretiens confidentiels se déroulent par-dessus les rebords de fer quand deux hommes sont occupés à astiquer les cuves côte à côte, chacun dans la sienne. L'endroit est également propice aux plus profondes méditations mathématiques. C'est dans la chaudière de gauche du Péco, ma pierre de l'art dessinant autour de moi des cercles diligents, que je fus pour la première fois frappé indirectement par le fait très remarquable qu'en géométrie, tous les corps qui glissent sur une cycloïde, ma pierre de l'art par exemple, tomberont de n'importe quel point en un temps absolument égal. Lorsqu'on enlève la plaque qui protège le devant du fourneau, on dégage, creusée dans la maçonnerie nue, de ce côté les deux bouches de fer des fournaises situées immédiatement sous les pots et munies de lourdes portes métalliques. Un réservoir peu profond, qui s'étend toute la surface fermée de la cabousse, empêche la chaleur intense de se communiquer au pont. Grâce à un canal installé à l'arrière, le rafraîchissoir peut être continuellement empli d'eau à mesure que celle-ci s'évapore. Il n'y a pas de cheminée extérieure. Elle s'ouvre directement dans le mur arrière, mais revenons un instant sur nos pas. Il était à peu près 9h du soir lorsque le fourneau du Péco fut allumé pour la première fois au cours de cette campagne. Il revenait à Stubb de diriger les opérations. Paré, alors ôtez le panneau d'écoutille et en route, vous le coq, allumez le feu. C'était chose aisée car, depuis le début de la croisière, le charpentier avait entassé ses copeaux dans le foyer. Il faut dire ici que, lors d'une campagne de pêche de la baleine, le premier feu du fourneau doit être entretenu quelque temps avec du bois. Après quoi, on ne se sert plus de bois, sinon pour enflammer rapidement le combustible de base. En un mot, le gras, une fois fondu et réduit à l'état de morceaux cassants et racornis, appelés maintenant « graton », qui conserve une partie considérable de ses propriétés huileuses. Ce sont ces gratons qui alimentent les flammes. Tel un martyr obèse au bûcher ou un misanthrope consumé par sa passion, le cachalot, dès qu'il commence à flamber, fournit son propre combustible et brûle au feu de son propre corps. Que n'absorbe-t-il également la fumée qu'il dégage ? Car cette fumée est une chose horrible à respirer et il vous faut pourtant bien l'inhaler, et même davantage parce que l'on est obligé de vivre dedans pendant un temps. Elle répand une odeur indescriptible, âcre, que l'on pourrait comparer à celle qui flotte au voisinage des bûchers funéraires hindous, ou à celle qui se dégagera du côté gauche au jour du jugement. On tient là une preuve décisive de l'existence du puits de l'enfer. À minuit, l'activité des chaudières était à son comble. La carcasse avait été larguée, nous avions fait de la toile, le vent fraîchissait. Sur le fauve océan, l'obscurité était profonde. On voyait, pourtant, de temps à autre, des flammes ardentes, langues bifurquées, jaillies des cheminées encrassées, de suie, lécher cette ténèbre et illuminer jusqu'au plus haut cordage du gréement, comme le célèbre feu grégeois. Le navire embrasé courait de plus belle, comme s'il eût été voué à l'accomplissement d'une impitoyable vengeance. C'était ainsi que les briques chargées de poix et de soufre, de l'audacieux canari, l'hydriot, quittaient nuitamment leur port avec de larges nappes de feu en guise de voile pour fondre sur les frégates turques et les ensevelir sous leurs brasiers. Le panneau d'écoutille, une fois ôté, un âtre de vaste dimension était dégagé sur le devant. On y voyait là, dressées, les formes tartaréennes des harponneurs païens qui sont toujours les soutiers des navires baleiniers. Armés d'énormes pics fourchus, ils jetaient dans les cuves brûlantes de gros morceaux de lard qui y tombaient en sifflant, ou attisaient les feux au-dessous avec tant de vigueur que les flammes serpentines, s'échappant par les portes des foyers, venaient s'enrouler autour de leurs pieds. La fumée roulait au loin en amas maussades. À chaque tangage du navire répondait un semblable tangage de l'huile bouillante dans les cuves, tout impatiente, eût-on dit, de leur sauter au visage. En face des bouches des chaudières, de l'autre côté de l'âtre de bois se trouvait le guindeau. C'était un véritable sofa marin. Les hommes de la bordée de car s'y délassaient lorsqu'ils n'avaient pas d'occupation particulière. Ils regardaient longuement le rougeoiement du feu qui finissait par leur brûler les yeux dans leurs orbites. Les visages cuivrés, à présent barbouillés de fumée et de sueur, les barbes en broussaille et, par contraste, l'éclat barbare des dents, tous ces détails acquièrent un singulier relief en subissant les capricieuses colorations du feu. Et tandis qu'ils se racontaient leurs aventures sacrilèges, narraient d'un ton allègre leurs récits de terreur, que fusaient de leur gorge des rires barbares, fourchus comme les flammes des chaudières, tandis que devant eux les harponneurs passaient et repassaient en gesticulant véhémentement avec leurs énormes fourches et leurs écumoires, que le vent hurlait sans discontinuer et que les flots bondissaient, que le navire grondait et piquait et menait sans faiblir son enfer rougeoyant, toujours plus loin dans la noirceur des eaux et de la nuit, mâchant avec dédain l'os blanc du cachalot et crachant avec rage de tous côtés. À ce moment, le Péco dans sa course est perdu avec son fret de sauvage chargé du feu et brûlant, un cadavre plongeant dans ses obscures ténèbres. À ce moment, le navire semblait bien être la réplique matérielle de l'âme monomaniaque qui le commandait. Tel m'apparaissait-il, alors que je me tenais au gouvernail et que, de longues heures durant, je guidais silencieusement ce brûlot sur sa route. Enveloppé d'ombre, moi aussi, dans cet intervalle, je n'en percevais que mieux la rougeur, la folie, l'horreur sur la face des autres. La vue continuelle de ces diables qui cabriolaient devant moi, tantôt dans la fumée, tantôt dans le feu, finit par faire naître dans mon âme de semblables visions, à l'instant où je succombais à cette incompréhensible somnolence qui ne laissait jamais de me surprendre lorsque je me trouvais au gouvernail de la minuit. Mais cette nuit-là, précisément, il m'advint une chose étrange que je n'ai jamais pu expliquer. Je m'éveillais brutalement d'un court somme que j'avais fait debout, avec la conscience horrifiée d'avoir commis une faute fatale. La barre en os de mâchoire contre laquelle je suis appuyé me frappe les côtes. J'ai dans les oreilles le gémissement des voiles qui commencent à s'agiter au vent. Je crois avoir les yeux ouverts. À demi conscient, je porte les doigts à mes paupières pour les écarter davantage machinalement. Mais le geste n'y fait rien. Je ne vois devant moi nul compas pour diriger ma route. bien qu'il ne se soit pas écoulé plus d'une minute, me semble-t-il, depuis que j'ai regardé la rose des vents à la lumière invariable de la lampe de l'habitacle. Il me paraît que je n'ai rien d'autre devant les yeux qu'une obscurité de jet, rendue sinistre çà et là par des éclairs rouges. Mais, surtout, domine en moi l'impression que la chose rapide et véloce qui m'emporte, quelle qu'elle soit, ne se dirige pas tant vers un havre qu'elle ne laisse dans les havres derrière elle. Je me sens égaré, pétrifié comme mort. D'un geste convulsif, mes mains s'agrippent à la barre tandis que j'imagine bizarrement que sous l'effet d'une sorte de maléfice, cette barre a changé de sens. « Mon Dieu, que m'arrive-t-il » me dis-je. Eh bien, dans mon court sommeil, j'avais fait volte-face et je me trouvais face à la poupe, le dos à la proue et au compas. Je repris aussitôt ma position initiale juste à temps pour empêcher le navire d'aller au lof et très probablement de chavirer. Quelles ne furent pas ma joie et ma gratitude d'être libéré de cette fantastique hallucination nocturne et du risque fatal d'être empanné. Ne regarde pas trop longtemps le visage du feu, ô mortel. Ne rêve jamais quand tu es au gouvernail. Ne tourne pas le dos au compas. Accepte ce que te dit la première secousse de la barre. N'accorde pas de crédit au feu artificiel quand sa rougeur revêt toute chose d'un phare sinistre. Demain, à la lumière naturelle du soleil, les cieux seront clairs. Ceux qui, dans les flammes fourchues, dardaient un regard de démon apparaîtront, au matin sous un aspect bien différent, au moins plus suave. Soleil glorieux, tout or et joie, la seule vraie lampe, toutes les autres mentent. Le soleil, pourtant, ne cache pas le marais maudit de Virginie, ni la pestilentielle campagne romaine, ni l'immense Sahara, ni les millions de milles de déserts et de douleurs qu'on voit à la surface de notre planète. Le soleil ne cache pas l'océan, qui est la partie obscure de notre terre et dont il couvre les deux tiers. C'est pourquoi l'être qui possède en lui de joie que de chagrin, qui possède en lui plus de joie que de chagrin, celui-là ne saurait être vrai. Il ment. Ou bien ce n'est encore qu'un enfant. Il en va de même pour les livres. Le plus vrai de tous les hommes fut l'homme de douleur. Et le plus vrai de tous les livres est celui de Salomon et l'Ecclésiaste d'acier, le mieux trempé de la souffrance. Tout est vanité. Tout. Ce monde entêté n'a point encore saisi la sagesse de Salomon, l'infidèle. Mais celui qui évite hôpitaux et prisons, traverse les cimetières à la hâte et préfère parler d'opéra plutôt que de l'enfer, qui traite Cooper, Jung, Pascal, Rousseau de pauvres diables et d'esprits malades et passe une vie d'insouciance à jurer par la courte sagesse de Rabelais, le joyeux Luron. Cet homme n'est pas digne de s'asseoir sur des pierres tombales ni de plonger la main dans l'humus vert et humide avec Salomon et ses insondables merveilles. Pourtant, Salomon lui-même dit « L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera. » Entendons même sa vie durant. « Dans l'assemblée des morts. » Garde-toi donc de t'abandonner au feu, de peur qu'il ne te tourne sens devant derrière et ne t'engourdisse comme il fit alors pour moi. Il est une sagesse qui est souffrance, mais il est une souffrance qui est folie. Et il est, en certaines âmes, un aigle des quatre skills. Qui peut aussi bien plonger dans les profondeurs des gorges les plus noires qu'en ressortir d'un vol vertical et disparaître dans les espaces ensoleillés. Et quand bien même il volerait à jamais entre les parois de la gorge, cette vallée est montagneuse, de sorte que l'aigle des sommets, même quand il plonge bas, volera toujours plus haut que les oiseaux de la plaine, si haut qu'ils s'élèvent.